Radio ჟურნალი საქართველო, სპეციალური გამოშვება. საუბარი თბილისიდან სტუმრად მყოფ ფილოსოფოს მერაბ მამარდაშვილთან და ფრანგ მოქალაქესთან, წარმოშობით ქართველთან, რამაზ პაპუაშვილთან. მე ამ უბრალო შესავლით მინდა აღვნიშნო ის შესანიშნავი ფაქტი, რომ პირველად ჩვენს გადაცემებში აი ესეთ თავისუფალ საუბარში ხვდებიან ერთმანეთს ორი ქართველი, ერთი ასე ვთქვათ შუაგულიდან იმ ცხელი და მიმდინარე ამბებისა და მეორე გულმტკივნეული მაყურებელი და ასე ვთქვათ მსურველი გაიაზროს ყველაფერი ის, რაც ხდება საქართველოში და როგორ შეიძლება საქართველოს განვითარება მომავალში. აი მე ვფიქრობ ამ მიმართულებით ჩვენი საუბარი წარიმართება იმ საკითხების ირგვლივ, რომლებიც დღეს ასე აწუხებს ყველას. საკითხები არა მიმდინარე კონკრეტული ასე ვთქვათ მოძრაობების შესახებ, არამედ საკითხი იმის შესახებ, თუ როგორ მომავალს უმზადებთ ჩვენ საქართველოს. როგორი მომავალი უნდა ქონდეს ან ექნება მთლიანად იმ უზარმაზარ სახელმწიფოს, რომელიც საბჭოთა კავშირის სახელით არის ცნობილი და როგორც ვიცით, რომელმაც დაამყარა მსოფლიოს ერთ-მეექვსედზე ისეთი სისტემა, რომლიდან თავის დაღწევა ძალიან ძნელი ჩანს. ამავე დროს მე მსურს აღვნიშნო ის სამწუხარო ცნობა, რომელიც ახლახან მივიღეთ ანდრეი სახაროვის გარდაცვალების შესახებ. ეს დიდად დამამწუხრებელი ამბავია და მე ვფიქრობ ყოველი კეთილინების ადამიანი, ყოველი მოაზროვნე ადამიანი რასაკვირველია დიდად იქნება დამწუხრებული ამ დიდი მართლაც უბედურებით, რომელიც თავს დაატყდა აი ამ მომენტში იმ ძალებს, რომელთა უეჭველი ლიდერი იყო ანდრეი სახაროვი. ის არამარტო დიდი მეცნიერია, არამედ ის იყო დიდი მოქალაქე და ადამიანის უფლებათა და ეროვნულ უფლებათაც დიდი დამცველი. მე ვიცი, რომ საქართველოში მისმა ზოგიერთმა გამონათქვამმა გამოიწვია გარკვეული აღშფოთება, მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში მის ამგვარ ფუნდამენტურ პოზიციას არ ცვლის. ანდრეი სახაროვი არის მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი დიდი პიროვნება და დიდი მებრძოლი იმ გარდაქმნებისათვის, რომლისთვისაც ყოველი ჩვენგანი იბრძვის და ოცნებობს. მე ვფიქრობ, ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენს თემაზე, მიმდინარე თემაზე და ვთხოვ ჯერ ბატონ რამაზს, რომ გაგვიზიაროს თავისი შეხედულებები საქართველოზე, იმ ორიენტაციაზე, რომელსაც ასე ვთქვათ საქართველო უნდა დაადგეს საერთოდ, რას ფიქრობს ის მიმდინარე პროცესების შესახებ. ჩვენ ჩავერთვებით საუბარში იმის და მიხედვით, თუ წამოიჭრება რაიმე პრობლემა განსაკუთრებით.
გამარჯობათ, ქართველებო. უკასავა თქვენთან, თუ ქართული კარგად
არ ვიცი,
მაგრამ ძალიან on peut dire comment mesmis kartuli, მაგრამ ლაპარაკი მჭირს.
მჭირს
და თქვენ მესამე ფრანგული ვიცი და ფრანგულად ვილაპარაკებ. Bon, je crois que ça. Alors je reviens de Géorgie au mois d'août et j'ai fait un constat qui a été extrêmement douloureux pour un Géorgien né en France, élevé dans un pays occidental, travaillant en Occident dans un domaine très international. Et j'ai pu constater à quel point ce système était en faillite sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Et ça explique en grande partie les conséquences qui apparaissent au niveau des tensions insupportables sur le plan de la société, je dirais passionnelles, et je dirais malheureusement, comme toujours lorsque les choses sont passionnelles, elles débordent sur le plan démagogique, parce que c'est facile, et en même temps il y a un caractère rédemptateur, je dirais, dans les revendications aujourd'hui nationalistes, et patriotique qui se manifeste en termes d'indépendance. Alors, j'ai été élevé dans l'idée d'une Géorgie indépendante. C'est-à-dire que je ne peux pas être contre l'idée de l'indépendance de la Géorgie, sentimentalement, au nom de sa culture, de ses spécificités, de son histoire, de sa personnalité. Je dis simplement, en tant qu'occidental géorgien, c'est que le choix, pour moi, il est aujourd'hui celui de la modernité. Et la modernité qui impose, sur le plan politique, sur le plan culturel, des conditions qui sont celles d'assumer un destin sur le plan de la collectivité tout entière, et en particulier, en tous les cas, de son élite. Et si on devait définir ce que pourrait être aujourd'hui la modernité, c'est exercer un talent, la liberté d'exercer un talent dans tous les domaines de la création, qu'elle soit artistique, intellectuelle, technique, industrielle et commerciale. Alors, il y a des conditions à cette modernité que nous connaissons bien ici en Occident. Et ces conditions, c'est un marché ouvert, puissant, sans entrave administrative ou douanière. C'est également une monnaie forte et stable. C'est également un État capable de gérer la nation au mieux des intérêts de la collectivité dans les domaines aussi essentiel que la formation, c'est-à-dire la capacité d'irriguer le savoir, de la protection, c'est-à-dire la santé, des communications qui sont essentielles au développement économique, comme les routes, la téléphonie, les structures en général de la communication, audiovisuelle, etc.
Ce qui est le pire là-bas.
Et ce qui est, comment dirais-je, le cas typique d'un pays sous-développé. Hein, ce que l'on voit, comment dirais-je, en matière de structure de communication, ce qui permet aux hommes de se mettre en rapport rapidement les uns avec les autres, hein, est pratiquement inexistant, hein, en tous les cas totalement défaillant. Et enfin, il faut que l'État assure la justice. Je dirais qu'à partir de là, on peut en effet voir s'exprimer des talents et au mieux de l'intérêt général. Je dirais également que c'est une philosophie, c'est-à-dire c'est un choix, c'est-à-dire dans l'acceptation de la confrontation pacifique des talents, car une nation moderne ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échec. Nous disons simplement, nous constatons que la somme des talents est supérieure à la somme des échecs. Et que c'est ce qui permet à une société d'avancer, de s'enrichir, malgré les crises ou malgré certaines erreurs. Mais le fait demeure que si nous devons comparer d'une façon totalement philosophique ou synthétique les deux systèmes qui ont partagé le monde jusqu'à présent, c'est que le monde occidental a su s'enrichir grâce à l'accumulation des talents plus nombreux que les échecs qu'il a produits, mais que le système communiste a créé plus d'échecs par rapport aux talents qui existaient ou qui auraient pu exister. Et de là se situent les différences au niveau de la conception des sociétés et de l'État dans lequel on trouve la société communiste et soviétique aujourd'hui.
Mais quelle est la condition, la possibilité de sortie de cet échec?
Je crois que il y a des conditions qui sont d'une part peut-être philosophiques, mais là Mera peut certainement en parler plus que nous. Pour moi, il y a une condition philosophique et il y a une condition politique. Les deux sont peut-être mêlés, mais on va les différencier parce qu'on a affaire à un système particulier et qui a maintenu la société dans un état de mensonge. Alors il faut renverser la tendance et se dire qu'une société moderne, c'est une société qui privilégie la vérité. Et de la vérité, c'est, je dirais, une constante dans la qualité. Et la constante de la qualité, ça produit le talent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de talent sans vérité. Alors, c'est une chose qui est complètement à renverser dans un système qui est habitué au mensonge et dans lequel les gens ont fini, de gré ou de force, par se plier et retourner cette situation nécessite une énorme, je dirais, spiritualité. C'est-à-dire que le levier de cette vérité, il est dans la spiritualité pour certains, il est, je dirais, dans d'autres choses pour d'autres. Mais je dirais que sans ce levier de la vérité, on ne peut pas entrer dans la modernité. Je citerai simplement un exemple qui ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde. Je dirais que le système universitaire soviétique produit des diplômes complètement dévalorisés dans la mesure où il est de notoriété publique, hein, qu'on peut les acheter. Je dirais qu'un État dans lequel on peut acheter la représentation d'un savoir produit déjà un sous-talent. Hein. Alors, le deuxième élément qui est essentiellement politique, il est celui de transformer ce qu'on a peut appeler encore pour quelque temps les structures de l'Union soviétique d'aujourd'hui, qui s'assimilent à un espèce de néocolonialisme qui ne veut pas dire son nom, dans une structure confédérale dans laquelle chaque État aura sa souveraineté économique, sa souveraineté politique, mais pour autant resteront tous ces États solidaires entre eux au niveau du marché, au niveau de la monnaie et au niveau, je dirais, d'une solidarité économique, mais qui laissera chacun des États évoluer en fonction de ses capacités, de sa culture, de ses richesses propres et ensuite surtout par le talent de ses hommes. Voilà pour moi quelles sont les conditions, je dirais, essentielles, hein, d'un renouveau, je dirais, de la Géorgie, mais des autres États de l'Union soviétique d'aujourd'hui. Je dis qu'il est peut-être utopique, et c'est là où se situe l'équation la plus fantastique qu'il se joue actuellement. Est-ce qu'on verra apparaître cette structure confédérale à l'intérieur desquelles les États retrouveront leur souveraineté ou non? C'est-à-dire, est-ce que ce système néocolonialisme va continuer à pourrir sur place au prix de sacrifier son entrée dans le 21e siècle, ou est-ce qu'on va revenir à quelque chose qui, encore une fois, est la vérité, parce que l'homme soviétique n'existe pas. Bon. Mais il n'empêche qu'au travers d'une structure confédérale, on peut approcher, je dirais, de ce que M. Gorbatchev a appelé, finalement, la maison européenne. Bah, si nous, Français, de 55 millions d'habitants, nous estimons comme normal de créer entre nous la communauté européenne avec une délégation de souveraineté, ce qui est absolument indispensable lorsqu'on veut créer une monnaie commune, car au niveau de la puissance financière qui est le levier du progrès industriel et de la société, on peut considérer que la France n'est plus une puissance financière suffisante, au même titre d'ailleurs que la plupart des pays européens. D'où la nécessité de créer cette monnaie européenne et de ce fait de déléguer une partie de la souveraineté nationale à des instances communautaires. On pourrait parler à contrario. En ce qui concerne l'Union soviétique, il y a des instances communautaires, il faut simplement recréer les nations qui, bien dans leur peau, pourront contribuer au progrès de tous. Mais c'est un pari intellectuel, c'est un pari qui n'est pas gagné, mais il me semble important que ce soit une équation qui entre aujourd'hui dans le débat, et en particulier dans le débat de la Géorgie. Et je dirais même qu'il serait à l'honneur de la Géorgie de défendre cette position, quitte, si elle n'était pas acceptée, à ce moment-là, en effet, de plaider pour une indépendance. Alors voilà un peu quel est mon avis d'occidental, encore une fois. Moi, je ne suis pas un Géorgien qui vit en Géorgie. Je souffre pour la Géorgie. Je vis dans le confort. Hein, et je ne peux pas me mettre à la place d'un Géorgien qui vit en Géorgien. J'essaye de refouler ma passion pour faire place à la réflexion. Et je dirais qu'aujourd'hui, la Géorgie a besoin de deux philosophes, elle en a déjà un, c'est Merab, et elle a besoin aussi peut-être de Spinoza pour essayer de calmer un peu la passion, je dirais, instinctive du géorgien pour aller vers une réflexion plus politique, plus sage, plus mûre. Je crois que ça aussi, ça fait partie du schéma, c'est-à-dire la modernité a besoin de réflexion, elle a besoin d'action, elle a besoin même quelquefois d'un peu de passion, mais elle a surtout besoin de réflexion. Et je dirais, pour conclure et pour arriver au débat qui nous intéresse, c'est qu'il y a une spécificité pour la Géorgie. C'est une spécificité économique, je dirais. Et quand je disais que je comparais la Géorgie un peu à la Californie, c'est qu'elle a le don de Dieu au niveau de la nature et qu'elle a aussi le don de Dieu au niveau des hommes. C'est-à-dire que les deux peuvent produire, comment dirais-je, une richesse absolument exceptionnelle, que ce soit au niveau agroalimentaire, qui est rattaché à la nature, mais au niveau technologique, rattaché à l'intelligence des hommes, dans les domaines aussi variés que la pharmacie, l'électronique, la téléphonie, tous les métiers de la communication qui vont de l'informatique jusqu'au monde artistique, que dans le domaine médical, elle a certainement beaucoup de choses à faire, que dans le domaine des loisirs, elle a à ouvrir ses portes aux étrangers et là, devenir, je dirais, un espèce de paradis hein, pour les gens et c'est une source d'enrichissement énorme. Je dirais qu'il y a une certaine similitude entre ces deux nations. Bien. Et puis je dirais qu'en ce qui concerne la Géorgie, il y a un pari supplémentaire qui correspond à sa spécificité propre. Je ne dirais pas que l'enrichissement est un but en lui-même. Je dirais que la Géorgie a un symbole à faire vivre, c'est qu'elle est le trait d'union entre un monde occidental chrétien et puis un monde oriental dont elle fait partie, hein, de par son histoire, de par sa race, et qu'il y a là quelque chose d'exemplaire à créer, qui l'a été dans l'histoire de la Géorgie, qui a été une école, je dirais, de respect pour les autres, une terre d'accueil, une terre, je dirais, de seigneur. Et il n'y a aucune raison que cela ne revienne pas dans une région apaisée avec ses propres démons et, encore une fois, ayant choisi la modernité, avec tout ce que ça comporte comme danger. La démocratie est une école difficile, le talent est une école difficile, la vérité, tout simplement, des valeurs, est une école difficile lorsqu'on a été déshabitué à l'exercer. Alors, je ne sais pas, voilà. Mesdames, si vous avez...
voilà, revenons maintenant aux philosophes et ouais. Voilà un peu...
J'écoute, je me merveille, c'est très beau, très exact en même temps. Mais je suis sensible à l'épaisseur de l'intérieur, à l'épaisseur de la vie géorgienne que j'ai vécue. C'est ma seule vie. On ne peut pas se doter d'une autre. On l'a vécue. On a les amours qu'on a, comme disait un poète français. Alors mon amour, c'est la Géorgie telle qu'elle est. Et je suis sensible au fait qu'il y a une condition qui recouvre tous les conditions, les problèmes, les solutions à ces problèmes que toi, Ramaz, si bien exposé et analysé en même temps. C'est la condition, je dirais, du temps. Du temps qu'on se donne. Et le temps qu'on se donne, c'est le temps de la vertu. C'est-à-dire que je veux ajouter à la condition du talent, à la condition de la modernité, une condition qui en recouvre toutes, ce qui est la condition de la vertu civique, dont il faut apprendre tout le volume historique, tout le volume qui est dans la destinée géorgienne, surtout dans la destinée étatique, qui est comme un schéma qui est dans notre génétique, le schéma dont les appels nous arrivent du ténèbre de temps, un schéma qui est en même temps idéal, une image légendaire de la Géorgie que nous portons dans le cœur, sans pouvoir dire que c'est la réalité. Mais qu'est-ce qui est plus réel pour l'esprit géorgien? C'est son conscience d'elle-même ou c'est l'effet matériel? Je crois que l'effet matériel a importance seulement à la lumière de cette idéalité qui nous fait géorgien. Et pour moi, c'est le problème de temps qu'il faut se donner, c'est le problème d'un effort soutenu dans la vie, l'effort qui ouvre en espace, en temps de l'action, méditer, qui est autre que le temps de réaction, de l'existence réactionnelle. Quand nous sommes réactionnels, sans ce battement de réflexion, sans ce battement de recueillement de soi-même, sans ce battement de pouvoir regarder soi-même, faire un effort sur soi-même, sans accuser les autres, ou l'autre avec A majuscule. Alors c'est le temps culturel qui est plus long, qui est, je dirais, même vertical, au temps réactionnel de nos impulsions, de comment nous réagissons aux insultes qu'on nous fait, au mal qu'on nous fait. Et quand nous seulement réagissons, nous sommes victimes de l'ennemi qui nous manipule par les attentes, par les insultes qui portent à notre entité. Alors il faut savoir se redresser. Et être civique, ça veut dire se ressouvenir de l'obligation d'être le citoyen. Être citoyen, ce n'est pas un droit seulement. C'est aussi l'obligation de participer à comment on gère la chose publique, c'est-à-dire la res publica. Mmh. Et quand je dis vertu civique, je dis vertu républicaine. Mmh. Vertu républicaine où c'est évident que même le monde est fait de cette façon, où il faut pouvoir chaque jour, à haute voix, publiquement, sur une agora, décider de son avenir. L'avenir n'est jamais décidé d'avance, c'est rejouer à chaque moment de notre vie. Et ces moments-là appartiennent au temps plus long culturel. Il faut savoir vivre dans ce temps, avoir le courage de l'impossible, je dirais. Parce qu'autrement, il n'y a pas besoin de courage. Si la chose est possible, elle est possible par la mécanique de la chose, alors les vertus sont superflues. Les vertus existent seulement où il y a l'impossible, où les objets qui n'existent que si tu as la foi et le courage. Alors c'est la foi qui crée ces objets, et dans ce sens, la foi, même la foi religieuse, est son propre objet.
Moi, je suis complètement d'accord avec Mérab, parce que, en fait, c'est vrai que la vertu est quelque chose d'essentiel sur le plan personnel. Je ne pense pas qu'une nation se mérite si chaque citoyen ne fait pas un effort sur lui-même pour acquérir justement cette vertu à un moment où il est le seul ciment, en fait, de la modernité.
Je vais intervenir avec un petit extrait de Vajeb Chavela sur cette question. Vous me permettez? Kai kartveli o vambob txirat. Mash vina kai kartveli. Visat uqvar sakartvelo da imis tsqulebs malamot edeba. Vins misargos pikrobs da aketebs. ასევე ითქმის რუსსა, ფრანგსა, ინგლისელსა, თათარსა და სხვებზეთ. სხვა ან რა მნიშვნელობა უნდა ქონდეს ქართველობას, რუსობას, ფრანგობას, თუ კი ამ ღირსებას მოკლებული იქნება. მაინც და მაინც ამითი კაი კაცის ვინაობა არ განიმარტება. ჯერ ისევ აუხსნელი გაუგებარი რჩება ასახსნელი საგანი, თუ სიკეთე ადამიანის პირადი სარგებლობის მიღწევით განისაზღვრება, კაი კაცი ის უნდა იყოს, ვინც თავის პირად სწოფა ცხოვრებას გაიუმჯობესებს, გაშრის და გაჰყვეთს თავის და სასარგებლოდ. ნუ თუ ასე უნდა გვესმოდეს სიკეთე, არა, მე სხვაგვარად ვჯდიდა ვფიქრობ. კაი ცული ბევრ საქმეს გააკეთებს, თუმცა ხშირად მოხდება, რომ პირი მოსყდეს და გაეჟღლას. მაგრამ სხვას, ადამიანს, ბევრ სარგებს. კაი ცხენი ბევრჯელ დაიღლება, ბევრჯელ გაიბანება ოფლში. ბევრს ტანჯვასა ნახავს, მაგრამ ხედარს კი ბევრს ასიამოვნებს. სანთელიც იმითია კარგი, რომ თვით იწვება და სხვას კი გზას უნათებს. წყვდიათ საქარწყლებს, ნათელს ქფენს, უხილავს მიდამოსხილულად აქმნის და სხვანი. ერთი სიტყვით, კარგს, რასაც ვხედავთ ბუნებაში, ყოფილა თავისთვის უსარგებლო, ხოლო სხვისთვის სასარგებლო, სახეირო. მაშასადამე თვით ბუნება გვაძლევს საზომ სიკარგისა და უვარგისობისას. და ჩვენ კაცთ ეს არ გვესმის. თუნდაც რომ გვესმოდეს, მაინც ყურადღებით არ ვეპყრობით ამ ბუნების კანონს, მის განაჩენს. განათლებამ ბევრი რამ ბუნებრივი უარყო და თავის გემოვნებაზეც გადააკეთა, თავისის აზრის, მისწრაფების სასარგებლოდ გამოიყენა. ხოლო უარყოფა აზრისა და გრძნობისა, რომელზედაც დაფუძნებულია ადამიანის სიავკარგე, დღესაც ამამდე ვერ გაუბედნია. ისტორიაც კარკაცებად იმათ ასახელებს, ვინც ამ მხრივ ყოფილა გამოჩენილი, ვისაც ხვისთვის რა მურგია და არამარტო თავისი თავი ხსნებია, თავისი ჯიბე და კუჭი. ვალას ესა ამონავი ანკორ სეთე კრი ილია სანტენდანე, მე ანტუკა ლე პანსე სურ la société, sur l'avenir et sur la vertu de Mokalake, qu'on s'appelle, ça existait toujours dans l'horizon de penseurs géorgiennes et même un des plus grands génies géorgiennes.
Je voudrais simplement ajouter quelque chose à ce qu'a dit Mela, parce que tu viens de dire, c'est que quand on voit ce que Singapour. On voit Singapour, on voit Abu Dhabi. Je dirais que les conditions de développement n'étaient pas les mêmes. Mais je dirais que, puisqu'on parlait du facteur temps, il a fallu, pour les uns 25 ans, pour les autres 15 ans, pour construire la modernité. Je dirais que ça ne pouvait pas se faire sans la vertu, quelquefois imposée. Mais en tous les cas, ça ne pouvait pas se faire si ce n'était pas le défi de tout un peuple. Il ne suffit pas simplement d'avoir une élite, mais encore faut-il que la discipline nécessaire, hein, et que la société que l'on construit soit une société où le consensus existe et il est basé sur la qualité et la vérité. Alors là, on rejoint le problème de la vertu, qui est, à mon avis, la base essentielle du développement. Il ne faut pas se tromper de bataille, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Je crois que nous avons, nous en Géorgie aussi, il faut le reconnaître, hein, peut-être un petit ennemi en nous-mêmes, qui consiste à dire « c'est la faute des autres ».
Oui, surtout hein? si on a vécu dans la société qui est la société de privilèges et de mensonges, et qui n'est pas réellement la société du travail libre. C'est-à-dire que c'est celui qui s'est fait selon le sens de la chose à faire, obéit seulement par le talent, par la compréhension, obéit seulement à ce sens, et il n'y a aucun entrave extérieur qui découle des positions déjà préexistantes de gens, de leurs privilèges, de leur liaison, très souvent de caractère mafiosi, etc., qui est vraiment la possibilité de réaliser soi-même pleinement, selon le sens du projet, du travail, selon le sens de d'œuvre que tu crées, selon le sens des rapports collectivistes, collectifs qui existent autour de ce noyau qui est le phénomène du travail libre. Et dans ce sens, c'est tout contraire de la société soviétique, parce que dans la société soviétique, et il faut, dans ce sens, réapprendre à vivre dans une société normale. La société soviétique est la société de l'obligation de travail.
Mais un instant, on doit changer le... Bon, on peut continuer.
Alors, je veux finir pour te faire revenir sur les choses que tu as dites. Alors, je dis que la société soviétique se caractérise par le contraire, par le phénomène de l'obligation du travail et pas la liberté de travail. La modernité, c'est le travail libre et le soviétisme est le travail obligatoire. Est un obligatoire, c'est-à-dire contraire à la modernité, c'est un système de servage. Il devient fictif. Il devient créer un monde des signes où on fait le pas, ou mieux dire, on fait pas le pas, on fait un signe d'avoir fait un pas. On fait un signe d'une chose. On a le nom, on n'a pas la chose.
On a la fonction, mais on ne travaille pas.
On ne travaille pas. Et de ce monde de signes est en même temps une perversion sociale qui consiste en cela que le soviétisme, et en cela je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que l'homme soviétique n'existe pas, malheureusement il existe bien. C'est une forme dégénérée de l'homme qui existe et qui occupe un espace énorme, qui est le sixième, comme Jean Rie a dit, du territoire global du monde. Et cet homme a su se créer une forme de vie sociale telle où la collectivité, les liens sociaux sont une arme pour une survie individuelle, de lutte acharnée des individus les uns contre les autres. Si on n'a jamais on a réalisé les descriptions de philosophes anglais et autres où on disait que l'homme c'est un loup pour l'autre homme, alors c'est à l'époque soviétique, dans cet espace dont je parle. Et c'est une perversion fondamentale de toutes les capacités, de toutes les, je dirais, de tout effet cumulatif que un lien social, une coopération puisse avoir. Et cette carapace, maintenant, la collectivité fictive, qui est comme de la gélatine, qui n'a même pas structuré, qui est comme une chose sourde, qui enveloppe comme dans les nouvelles de Kafka, dans ses métamorphoses animalesques, cette carapace magmatique étouffe tout et transforme l'homme vers le pire, vers l'entropie de l'intérieur.
Mais je peux encore citer Vajib Chavela parce que c'est étonnant comme il utilise le même thème toujours. Voilà une petite citation. Is rodikmara martorom rotsa unda gamovides da ise irnos kuchaze imgheros itamashos sheirtos tsolat iskali visats igi moston da vints mas moston მაგრამ ამავე დროს აკლია სახსარი ცხოვრებისა არა აქვს მოსახნავი მიწა მოსწონი ქვე ახლო მდებარე ნაფუძარი და არაძლევს ნებას მიწის პატრონი რომელსაც 1000 ამისთან და ნაჭერი სხვა მიწა აქვს თავისუფლების მტერია ის ადამიანი ვისაც არ უყვარს თავისი თავი თავმოყვარეობა ორნაირია ბრიყული და გონივრული ბრიყული როცა ადამიანი მარტო თავის თავზე ზრუნავს მხოლოდ ფიქრობს მას მე ვირგო და სხვა წყალმაზიდოსო მე მქონდეს უფლება სხვა შეურაცხო და სხვას კი არ ახონდეს ნება პასუხი მომთხოვოს. მარტო მქონდეს ნება ვცარცვო და მეორეს კი მოესპო საშუალება თავის დაცვისა. სხვის უფლება ადამიანობა შელახოს დაუსჯელად, ხელშეუბრუნებლად. ამისთან ადამიანი მსგავსი ამ ხეცისა, იგივე მხეცია და მისი თავმოყარეობა არის მხეცური. მგელიც ასე ფიქრობს. ადამიანი მგელია მეორე ადამიანისათვის. იმ საზოგადოებაში, როგორცაც ჩვენ ახვწერთ. მგელიც ასე ფიქრობს, ოღონ თვითონ გაძღეს და იმის ჭირის ნაცვალი იყოს 1000 სული ცხვარი და 10000. არაფერი ამ გლის ფიქრით ეს ცოდვა, ეს დანაშაული. თავისუფლება უნდა იყოს საერთო, საყოველთაო და არა საკუთრება რამდენიმე ადამიანისა, როგორც დღეს არის. Je crois que il
voilà.
Oui, c'est
Oui, il donne certaines raisons.
Voilà. Je crois que Merab on a un petit comment dirais-je différent de conception quant à la société soviétique. Merab dit c'est la société, l'homme soviétique existe par ses défauts. Bon, et par cette espèce de gélatine qui est en train de plus ou moins fondre sous la pression, comment dirais-je, des éléments, parce que il arrive un moment où les hommes ont le dégoût d'eux-mêmes de vivre dans un système qui leur permet pas justement d'approcher le talent, mais qui est un système de perversion, qui est un système de mensonge, et c'est un système de tricherie.
Bon. Et il arrive un moment, par la tricherie,
on survit par la tricherie, par on s'enrichit
pardon, par le pardon compréhensif mutuel
et par cette, comment dirais-je, cette codification de la tricherie qui devient une codification sociale, n'est-ce pas bon. Mais on pourrait dire que cette gélatine est en train d'être absorbée comme la peste est absorbée petit à petit, comme la rage a été absorbée, c'est-à-dire que cette maladie finalement est en train, semble-t-il, hein, d'être rejeté et d'être absorbé. Alors, il faut, comment dirais-je, comprendre que dans ces conditions, il est naturel qu'on essaye de rejeter plus vite qu'on peut le faire ces éléments négatifs de la société et de la personnalité. D'où, comment dirais-je, ce qui nous intéresse pour la Géorgie et nous inquiète aussi, il faut bien le dire, cette tentation rédemptatrice qui est de dire plutôt être patriote et pauvre que de continuer à vivre comme cela. Alors, le problème...
C'est ça la vertu, un peu.
Oui, il y a une espèce de recherche, là, me semble-t-il, de la pureté, n'est-ce pas, une espèce de comment dirais-je, de réaction passionnelle, mais qui, à mon sens, et, si je la comprends...
Et aussi dans l'isolement, dans son essence
pure. Forcément, oui, rechercher la pureté essentielle, n'est-ce pas, du peuple géorgien. Ce qui me fait peur, parce que là, on ne touche qu'un des aspects de la société géorgienne, par rapport à son passé, mais on ne touche pas l'autre partie, à mon sens, tout aussi essentielle, qui est son avenir. Et le choix définitif d'un peuple qui veut entrer dans la modernité et qui, pour cela, est prêt à accepter un certain nombre de choses à payer, de choses à retrouver en lui-même. Autrement dit, il ne suffit pas de dire « je suis patriote et je veux l'indépendance » pour obligatoirement entrer dans la modernité. Je crois qu'on ne fait que la moitié du discours. Et c'est malheureusement le plus facile. Mais l'autre moitié du discours, celui qui vient après, celui-là est très difficile. Parce que c'est plus celui du langage, c'est celui de l'action.
L'action, oui, c'est ça le problème.
Et c'est là qui est très difficile et très dangereux. Parce qu'on peut être indépendant, comme 170 pays dans le monde, mais il n'y en a que 20 qui vivent dans la démocratie, et je dirais dans une certaine prospérité, même s'il y a des inégalités, des crises et des drames. Hein. Mais il n'empêche que la marche vers cette modernité impose des efforts, des vertus qui sont beaucoup plus importantes que simplement réclamer l'indépendance.
Oui,
voilà quel est un peu le débat d'aujourd'hui.
On peut résumer ainsi le sens de ce qu'on vient de dire, que, par exemple, moi, je peux accepter tout, n'importe quoi, qui participe à la construction de la Géorgie forte et prospère. La Géorgie, qui est, sera capable d'adosser, prendre sur soi-même tout le volume de sa destinée historique, tout le volume de ses parties historiques, tout le volume de pouvoir, de savoir-faire étatique qui sont aussi dans le destin de la Géorgie, qui est le destin d'une flèche qui est déjà partie il y a longtemps, la flèche vers la liberté et l'indépendance du peuple qui mérite par ses capacités, par les dons aussi du climat, du territoire, ressources naturelles et surtout les ressources humaines, par l'esprit que nous avons, leur esprit du défi aux circonstances, défi joyeux et créatrice. Les Géorgiens ont travaillé jusqu'à aujourd'hui à créer en deux heures, soit dans l'industrie, soit dans l'agriculture, soit dans l'art, au cinéma, théâtre, chant, etc. etc. Nous avons marqué de notre présence tout cela. Il nous reste, la chose la plus essentielle, de reprendre sur nous notre destin étatique. Savoir rétablir, se doter de capacité d'avoir une politique étatique indépendante, une politique réellement pratiquée par les organes d'État, par notre imagination, par notre horizon politique et par notre courage qui est le courage d'exister dans un sur un territoire qui est entre l'Occident et l'Est, où existe déjà le schéma prédonné, schéma de la géorgianité, qui est le schéma de écuménique, d'un certain écuménisme religieux, du rôle intermédiaire pacificatrice de l'État géorgien dans l'ensemble du Caucase. C'est notre vocation. Il faut se hausser au niveau de cela. En état fort géorgien, comme tu as dit que c'est la terre des seigneurs, oui, c'est la terre des seigneurs, dans le sens que aucun géorgien appartenant à la Géorgie forte, à la Géorgie qui a pratiqué sa vocation étatique, n'aurait pas peur de présence des autres ethnies sur le territoire de la République. Il saurait comment gérer ces parties de l'État national, parce que ça fait partie de l'État national géorgien, même si les ethnies sont différentes, il n'y a aucune opposition, et c'est le volume de notre nation, de notre république, de notre État. Les Turcs font partie de cela, les Ossètes font partie de cela, les Abkhazes font partie de cela. Nous avons maintenant peur seulement parce qu'on a perdu l'habitude de la vie étatique. Et maintenant, quand les sociétés comme la géorgienne se réveillent à elles-mêmes, c'est-à-dire une société civile se réveille à elle-même, à la réalité, pas aux fictions dans le monde des collectivités fausses du soviétisme, etc., alors il y a un moment que toutes les nations ont eu peur les unes des autres. Mais il faut c'est compréhensible comment ça peut être, mais il faut comprendre que c'est la peur et il ne faut jamais agir, sinon on ne sera pas au niveau de son destin historique, agir sous le coup de la peur. C'est le pire conseiller, la peur. Et moi, comme en Géorgie, j'aurais honte d'avoir peur du fait qu'il y a Abkhazes dans ma république, qu'il y a Ossètes avec Abkhazes et Ossètes avec leurs idées d'autonomie. Il y a des régions. Mais je sais que l'idée du centralisme n'a jamais triomphé en Géorgie. Nous sommes fondamentalement un pays de terre. qui s'appelle Emirati, qui s'appelle Gouria, qui s'appelle Abkhazie, Kartli, Kakheti,
Raja,
le Tchoumi, d'où je viens. Mais c'est évident. Alors, c'est une réalité politique. Alors, il faut savoir jouer pour la prospérité, pour l'avenir. Jouer, c'est que c'est cette donnée historique, ces capacités et le talent qui, dans Georgien, qui est toujours cette absolument irréfrénable passion de la liberté et son incapacité de obéir.
Oui,
alors il faut convertir ça pour le bon.
Il faut en effet.
Bon. C'est notre force. C'est notre force rapport à vraiment par rapport à beaucoup de pays centralistes. L'état d'esprit centraliste, c'est ça le pire à ce moment-là, qu'on ne peut pas sortir de cet état, parce que nous pensons toujours à ce niveau-là. On n'a pas. Je peux citer même. C'était Tetri Gheorghi qui a publié, on a fait les émissions, on a couvert toutes les matières qui étaient publiées sur cette question, Mikha Kotzeretelli, Alexandre Manvelishvili, Léo Kereselidze, les grands Georgiens qui sont indépendantistes pendant des années quand personne n'a pensé sur ça, et il a écrit certainement, même chose qu'Imerab a dit, que la Géorgie c'est un pays fédéral. Antérieurement. C'est la fédération et on doit comprendre que c'est notre donnée de Dieu, donnée de l'histoire et donnée c'est notre richesse. Et si on utilise cette richesse, voilà, ça peut être une direction qui nous pouvons le gagner beaucoup de choses dans le monde, vraiment, et même montrer comment on peut gérer les problèmes.
Ça rend les choses très certainement encore plus difficile.
Je dirais que
l'État moderne en lui-même est centralisateur et je dirais il est contre les différences, même s'il dit qu'il les respecte. Bon, alors je dirais que c'est une difficulté pour la Géorgie, qui est une difficulté supplémentaire, mais qui l'oblige à retrouver ses vertus ancestrales. Je dirais que il faut se débarrasser, je dirais, de la perversion imposée par le système d'aujourd'hui. Et il faut aussi retrouver d'une façon extrêmement forte les vertus ancestrales géorgiennes qui lui ont permis de survivre à tout. Mais il faut rajouter à cela les obligations, je dirais, de la modernité. Et j'insiste beaucoup là-dessus, si nous ne voulons pas que l'élite intellectuelle, technique, économique géorgienne aille, comment dirais-je, exercer ses talents dans un champ, comment dirais-je, beaucoup plus favorable pour elle, et qu'elle revienne simplement pour passer des vacances en Géorgie. Je dirais que ça serait, comment dirais-je, transformer la Géorgie dans une espèce de grand jardin on viendrait simplement pour passer ses vacances. Je crois qu'il faut retrouver là non seulement les vertus qui sont absolument indispensables à la survie de la Géorgie dans la définition que Merab vient de donner, il faut aussi en faire un État moderne si on veut réellement assumer ce destin. Oui. Sinon,
et pour cela, il faut libérer. Si on cherche une formule, les formules sont toujours défectueuses, j'en suis conscient, mais je répète, il faut libérer le travail.
Il faut, je dirais, libérer l'ensemble, c'est-à-dire pas seulement le travail, c'est qu'une des conséquences de la libéralisation de l'ensemble d'un système et de faire en sorte que la Géorgie retrouve sa souveraineté. Je dirais que la souveraineté.
Non, je parle d'une chose plus concrète et plus exacte qui paraît abstraite, mais n'en est pas. C'est-à-dire, il faut redonner aux gens la liberté de comprendre leur travail.
Oui, la liberté, oui. De
comprendre eux-mêmes leur travail de mener ce travail. Ça signifie aussi, en partie, parce qu'on est gâté par le soviétisme, par la tricherie, par les mensonges, par la complaisance, par le pardon mutuel et universel, il faut réapprendre à travailler.
Oui, il faut réapprendre la vérité, il faut réapprendre le talent, il faut réapprendre à travailler, il faut réapprendre la notion de qualité de la vie, tout simplement, dans le travail, dans
les relations. Je dirais que par définition, personne n'est nous pas ennemi, donc à qui nous pourrions adosser la responsabilité pour nos malheurs, et par définition, personne n'est pas notre aide. C'est nous qui pouvons ou être ennemis de nous-mêmes,
absolument,
ou céder, aider nous-mêmes à nous-mêmes.
Absolument. Je pense que le destin est entre les mains des Géorgiens. Bon, on peut considérer aussi que il faut que sur le plan de la structure politique, les choses soient telles que les États reprennent leur destin en main.
C'est-à-dire
que
c'est ça.
Moi, j'attache beaucoup d'importance.
Tu m'excuses, je t'interromps, mais pour donner plus de vivacité à notre conversation, c'est évident, par exemple, que la question Ossète, ou la question Abkhaz, et même la question turque, je parle de la question intérieure turque, pas l'extérieur, sont des questions qui se règlent par une politique étatique de la République. Il n'y a qu'une solution étatique et politique à ces problèmes, et pas la solution passionnelle de l'amour ou de la haine mutuelle, de le respect sur le plan émotionnel qu'une ethnie aurait de l'autre. Aucun respect ne peut être obligatoire. Il y a un seul respect qui est obligatoire, et le respect de structures républicaines étatiques fortes. Alors, c'est évident que seulement un État qui nous renouvelons pourra, comme État, devant lequel, et devant aussi l'histoire et prédestination duquel tous sont égaux, tous les citoyens de la Géorgie, pas seulement égaux dans leurs droits, mais aussi égaux dans leurs obligations.
Dans leurs droits et dans leurs devoirs.
Alors, tout ce qui porte l'atteinte à l'indivisibilité de la République est géré, résolu par la République même.
Est-ce que la question que je voudrais poser à Ménard...
Au lieu de déchaîner des passions noires, parce qu'on sort de la nuit totalitaire, c'est évident qu'on emporte les stigmas et les traces dans notre propre... dans nos propres structures émotionnelles, réactionnelles, etc., etc. C'est évident.
Oui,
c'est pas une reproche, parce que autrement on peut pas sortir de la nuit. On est né dans la boue, dans le sang, et on emporte des stigmas. Mais il faut s'en contrôler cela. Il faut s'en débarrasser.
Il faut comprendre ça.
Canaliser les passions existantes dans des voies constructive, dans des voies de la vie politique autonome de l'État géorgien.
Alors, je voudrais demander à mesdames, en quoi le discours que nous tenons aujourd'hui peut sembler iconoclaste, presque, je dirais, à la doctrine officielle de l'opposition géorgienne. Est-ce que on peut faire comprendre, comment dirais-je, à tous ces Géorgiens que nous aimons, que nous comprenons, que nous soutenons, que le discours que nous tenons est un discours sur la méthode, mais non pas sur le fond.
Oui, sur la méthode, voilà. Et sur la compréhension.
Et sur la compréhension des problèmes.
On essaie de comprendre les problèmes.
Absolument. Ce qui me fait peur, encore une fois, je le dis parce que je l'interprète comme ça, et c'est très facile pour moi, je dois le dire, de l'interpréter comme ça, c'est que je ne subis pas la passion comme nos amis. C'est que la revendication essentielle, synthétisée en termes d'indépendance, me fait... comment dirais-je, peur. Et que je ne souhaiterais pas que l'on fasse la confusion entre la souveraineté, et l'indépendance. Alors, est-ce que c'est un, comment dirais-je, une contradiction? Est-ce que c'est iconoclaste de parler ainsi?
Non, je sais pas. Déjà, Georges Guéant a parlé de cela. C'est Ilia Tchatchavadze qui a parlé de cela, et on peut résumer sa pensée par des mots qui sont les suivants. Gérer soi-même. Mais on déchiffre ce slogan. Gérer soi-même veut premièrement dire que savoir gérer soi-même. Et savoir, ça prend.
Et ça prend du temps.
Ça exige un effort sur toi-même. Il faut que tu t'obliges toi-même à apprendre, à se doter des muscles de l'action, de savoir-faire, de savoir gérer toi-même. C'est un savoir, c'est pas une passion, c'est pas seulement un désir de la dépendance, c'est le volume réel de la force souveraine que tu sais pratiquer, qui émane de toi et s'impose aux circonstances, à la vie, à l'économie, à la culture, etc. etc. Alors, comment on appellera cela? Quels seront les mots, les étiquettes accrochées, collées à cela? Ça ne m'importe. Ce qui m'importe, c'est la force réelle.
La conviction.
En ayant la force, on décidera après des mots. Peut-être on choisira le mot « confédération » ou on choisira le mot, je souligne, ce sont que deux mots, si le volume réel de souveraineté et de l'indépendance dans le sens de la souveraineté est créé, existe et pratiqué par les Georgiens. Ou peut-être ce sera le mot « indépendance ».
Oui. Voilà, c'est ça le mot.
On en décidera.
Ok, mais nous avons petite 5 minutes. Je vais poser la question. Est-ce que c'est possible, penser même, penser c'est toujours possible, mais à cette direction, en avoir ce système de l'État centralisé en général? C'est-à-dire nous sommes la petite partie d'un sixième du monde centralisé. Et voilà, ça pose, je crois, question, parce que l'indépendantisme, à ce moment-là, c'est la réaction de ce centralisme vient de, disons, de Moscou. Et comment on peut sortir de ce problème sans avoir le problème avec le centre? Nous souvenons très bien,
Seulement en reprenant la vocation et les fonctions étatiques qu'on a en temps déléguées à Moscou ou à Pétersbourg, en reprenant en réalité ces fonctions étatiques qu'on a déléguées. Et c'est une chose tout à fait compréhensible, peut être compréhensible, s'il y a des gens plus ou moins, disons plus ou moins, même relativement raisonnables dans le centre. Ils doivent comprendre ça, que les républiques, en tant qu'ils se dotent de ces fonctions, de ces capacités étatiques, sont une force réelle, incontournable, et c'est un allié naturel du centre présidentiel, si ce centre présidentiel veut construire un pays qui s'appelle l'Union soviétique, qui pour le moment est aussi le territoire intérieur et le marché intérieur naturel pour nous. Parce que pour le moment, nous n'avons pas encore avec quoi sortir et se faire présent dans la réalité, par exemple, occidentale ou américaine. Pour une assez longue période, nos débouchés naturels de nos talents, de nos capacités, la coopération, le commerce, l'échange, dans le sens large de ce mot, sera ce qui est qu'on appelle l'Est. On doit apprendre à commercer, ces peuples-là doivent apprendre à commercer les uns entre les autres, coopérer, produire, Et seulement après, ils peuvent penser de se faire présentes comme les républiques, quelle que soit la dénomination, présente sur, dans la réalité mondiale, au lieu de écrire maintenant des lettres interminables, des protestations à l'ONU. Il faut, pour l'ONU, ou pour la France, pour l'Angleterre, pour l'Amérique, se faire réellement présent dans la vie réelle. Au niveau même que cette nation qui s'appelle français, anglais, etc., pratique. Et pas être un mendiant qui, sans avoir imposé sa réalité culturelle, économique, la réalité d'échange, insiste. Voilà, pourquoi vous ne m'écoutez pas, pourquoi vous ne pensez pas à moi, pourquoi vous ne m'aimez pas. Voilà, on ne peut pas mendier l'amour. L'amour, ça ne se mendie pas.
Je dirais que l'État centralisé tel que nous le connaissons aujourd'hui en Union soviétique est un État qui a fait la démonstration qu'il avait échoué. Et je dirais que pour lui aussi, le problème de la modernité se pose. Il ne peut pas devenir moderne s'il ne redonne pas aux différents États qui composent l'Union leur souveraineté, au même titre que les États-Unis sont une grande nation économique et commerciale, parce qu'il y a 50 États. Et je dirais que ce sont des États, je dirais, souverains, entre guillemets, parce qu'il y a le méthylpote américain, etc. Mais je dirais que l'Allemagne est divisée en landes et qu'il y a des unités, je dirais, optimum, qui font qu'à l'intérieur de ces unités, on arrive à acquérir le dynamisme, la souplesse, et que c'est grâce à cela que l'on progresse.
Bon, je peux conclure maintenant que nous avons tous, pour commencer grand travail pour faire un État moderne, la Géorgie, qui nous aimons plus que notre vie, peut-être même. Voilà, la question est ouverte et nous sommes toujours prêts à discuter la direction, comment le faire et